Kvat Tuk du Ser.
Kvat Tuk du Ser.
Kvat Tuk du Ser.
Vieux norrois, vieil anglais, ancien français, mais que racontent les personnages de la série Viking? Nous sommes Garance,
Jules
et Maxime,
et nous vous présentons ce podcast consacré aux langues historiques dans la série Viking, une série réalisée par Michael Hirst et diffusée entre 2013 et 2020.
Le scénario nous ouvre une fenêtre sur les raids, explorations et conquêtes effectuées par les Vikings entre les 8e et 11e siècles. Des voyages qui les ont mis au contact de divers royaumes dont la langue ne leur était pas familière. Un dépaysement que la série nous fait voir et entendre. Comment reconstituer des dialogues à partir des traces écrites qui nous restent?
Pourquoi, en tant qu'historien et historienne, s'intéresser à ces représentations dans la pop culture?
Qu'est-ce que la reconstitution de ces langues anciennes apporte à la représentation cinématographique? Voilà autant de questions que nous abordons dans les 3 épisodes de ce podcast. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série ou qui sont en train de la regarder, précisons que notre émission ne comportera pas le moindre spoiler. Cette émission vous est proposée par les étudiants de l'École Normale Supérieure de Paris en partenariat avec le Centre de Formation des Journalistes. Elle est réalisée à l'occasion de la Semaine de l'Histoire 2023, un événement organisé par les professeurs et les élèves de l'ENS, dont la session de cette année est consacrée aux langues. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Le thème de celle-ci, troisième et dernier volet de notre podcast consacré aux langues historiques de la série Viking, nous invite à nous pencher sur l'intérêt, sur le plan cinématographique, de la reconstitution de ces langues historiques dont vous avez pu avoir un aperçu dans les épisodes précédents. Nous allons aujourd'hui nous consacrer à l'analyse des différents moments de la série qui mettent en scène l'utilisation de ces langues anciennes, en nous demandant quel rôle celles-ci peuvent jouer dans la narration. Cette analyse interne ne va cependant pas nous empêcher de faire quelques pas de côté, notamment pour comparer les usages des langues historiques dans la série Viking avec ceux qu'ont privilégiés d'autres productions culturelles. Il s'agira par là de s'interroger sur la place de la série dans l'ensemble assez vaste de ces productions littéraires et cinématographiques qui ont toutes pour point commun de mettre en avant un personnage à la fois fascinant et terrifiant, le guerrier viking. Un personnage qui n'est pas sans véhiculer un nombre très important de clichés que les historiens et les historiennes des sociétés scandinaves médiévales ne cessent de pointer du doigt et sur lesquels nous allons revenir. Si ceci concerne la plupart du temps l'aspect physique ou la brutalité des vikings, il pourrait être intéressant de se demander le rôle que jouent les langues dans ces stéréotypes.
Viking n'est certes pas la première série à mettre en avant les vikings. En effet, et surtout depuis les années 2000, un nombre important de productions culturelles ont choisi la Scandinavie médiévale comme décor, et les vikings comme personnages principaux. Citons par exemple, outre Viking et sa suite Viking Valhalla, dont la diffusion a commencé en 2022, la série The Last Kingdom 2015-2022, ou encore The Northmen 2016-2020. La mythologie nordique est elle aussi au centre de films blockbusters à grand succès, comme la série de films Thor, distribuée par Marvel, ou les films d'animation How to Train Your Dragon de DreamWorks. Les vikings sont également centraux pour bon nombre d'œuvres littéraires. Pensons notamment au 9e art avec Astérix et les Normands en 1966 ou la série Thorgal dont la publication a commencé en 1980.
Mais le succès des vikings ne doit pas grand-chose à la réalité historique des sociétés scandinaves. La plupart de ces œuvres sont fictionnelles, même si certaines, comme la série Viking, cherchent à s'appuyer sur des sources d'époque, sur les travaux des historiens. La série Viking en particulier s'appuie sur les sagas. La plupart de ses œuvres mettent en scène des personnages stéréotypés et qui correspondent davantage à l'idée que nous nous faisons, en tant que spectateurs, des femmes et des hommes de la Scandinavie, qu'à un portrait fidèle de ceux-ci. Nous vous proposons d'entrer dans quelques-uns de ces clichés pour comprendre comment la série Viking s'en démarque ou au contraire les véhicule, pour enfin nous interroger sur la place des langues dans ces représentations stéréotypées.
La première image que vous avez en tête quand on prononce le mot de viking, c'est sûrement celle d'un guerrier sanguinaire et gigantesque, tout en muscles, portant casque à cornes et longue épée et écumant les mers à bord de son drakkar à voile carrée à la recherche d'or. Cette représentation, à elle seule, véhicule quelques-uns des clichés parmi les plus courants sur les vikings et que de nombreuses œuvres de fiction ont amplement véhiculé. Le premier, et celui sur lequel les historiens et les historiennes reviennent le plus souvent, c'est le casque à cornes, qui est en réalité une invention complète. Les guerriers vikings, au cours de leurs expéditions, ne s'affluaient en effet pas de ce genre de couvre-chef, et cette image, pourtant si centrale dans nos représentations des vikings, est née au XIXe siècle. Nous la devons en effet au compositeur Richard Wagner et à sa série de 4 opéras intitulée « L'anneau du Nibelung », écrit et mis en scène entre 1849 et 1876. Or, on pourra à l'occasion remarquer et saluer que la série viking ne verse pas dans ce cliché, et que les personnages principaux n'apparaissent jamais un casque à cornes à la tête. Pour autant, dans son traitement de l'esthétique des personnages, elle a néanmoins tendance à privilégier certaines représentations stéréotypées. C'est le cas notamment des coiffures élaborées et des magnifiques tatouages que des personnages, souvent des guerriers ultra-virilistes, affichent ostensiblement dans les scènes de bataille, surtout ceux qui se battent torse nu alors qu'il peut faire moins 20 degrés dehors. L'autre grand cliché sur les Vikings, c'est leur brutalité. Cela ferait d'eux les barbares par excellence du Moyen-Âge. On a souvent l'impression, en pensant aux Vikings, que ceux-ci sont des brutes écervelées qui se contentent de frapper les cibles les plus vulnérables et les plus immédiatement accessibles, comme les églises ou les monastères, motivés par leur seule soif de richesse et de gloire. Cette image nous provient directement des premières sources écrites médiévales qui font mention des Red Vikings à partir de la toute fin du 8e siècle. Ces sources étaient rédigées par des clercs et des moines, et ceux-ci, premières victimes des expéditions scandinaves qui venaient piller leurs églises et leurs monastères, avaient donc tout intérêt à présenter ces hommes comme de véritables démons, négation de l'idéal de l'homme chrétien et donc, selon eux, négation même de l'humanité. Alors si aujourd'hui, les Vikings ne sont plus simplement peints sous les traits de brutes sanguinaires, certaines œuvres voient encore en eux des montagnes de muscles sans cervelle. C'est par exemple le cas d'un dessin animé assez intéressant, dessin animé pour enfants, intitulé Vic le Viking, diffusé entre 1974 et 1975. Le héros de ces épisodes est un jeune garçon, Vic, fils d'un chef viking nommé Alvar, et qui résout les difficultés qui se présentent au fur et à mesure des épisodes grâce à son intelligence. Le personnage de Vic, héros de cette histoire, est précisément présenté comme une exception. Il ne serait pas exagéré de dire que dans ces épisodes, Vic est le héros justement parce qu'il est un viking qui réfléchit, ce qui le met à part, voire qu'il est le premier viking à se servir de sa tête.
Les clichés ne concernent pas que les personnages. Le décor est un autre élément que l'on pourrait citer pour se pencher sur une représentation type de ce qu'est le monde des Vikings. Si la série prend un soin notable à présenter le cadre et l'environnement de la plupart des péripéties, et fait pour cela référence à un certain nombre de lieux et royaumes médiévaux, comme les royaumes saxons de Northumbrie, de Wessex ou de Mercy, les scènes qui se déroulent en Scandinavie même sont souvent situées dans un lieu fictif et par conséquent atemporel. Le centre du monde viking, qui tourne autour de Ragnar, est ainsi une ville nommée Kattegat, un toponyme qui n'est attesté qu'au Moyen-Âge tardif, donc après la période viking, et qui renvoie à la mer qui sépare le Danemark et la Suède. La plupart des scènes qui se passent en Scandinavie ont pour cadre un décor mythique, le nord avec un N majuscule, rempli de fjords à moitié glacés, de forêts de conifères enterrées sous la neige, bref une géographie imaginaire qui convoque en nous tout un ensemble de représentations. On parle alors de boréalisme pour désigner le fait de mettre en avant une image stéréotypée des contrées nordiques, qui sert davantage à nous renvoyer en tant que spectateurs à ce que nous entendons par le mot de nord qu'à désigner une localité précise.
Quelle est la place des langues dans ce boréalisme ? C'est avant tout une absence. Les langues ne sont ainsi jamais, ou du moins très rarement présentes, quand il s'agit de représenter les Vikings. Nous en avons tout de même déniché un élément qui donne une idée du rôle que peuvent jouer les langues dans ces représentations stéréotypées. C'est la figure du Viking dans un dessin animé, Brendan et le secret de Kells. Ce dessin animé suit les aventures d'un jeune moine vivant dans l'abbaye de Kells, dirigée par son oncle, l'abbé Selak. L'abbaye de Kells est elle aussi une cible d'une attaque viking, et le portrait qui est fait des pilleurs est celui du viking stéréotypé par excellence. Ces derniers sont terrifiants, à peine humains. Ce sont des figures gigantesques, entièrement ombragées, et dont on ne perçoit que l'épée et le casque à cornes. Ce qui est frappant, c'est que ces personnages, dont on ne perçoit que la silhouette, ne parlent jamais. Ils ne font qu'émettre des grognements, ou bien parlent d'une voix si menaçante qu'elle en devient robotique et méconnaissable. Mais à part ce traitement des langues dans Brendan et le secret de Kells, rares sont les œuvres culturelles qui réservent aux langues une place à part. De ce point de vue, la série Viking est plutôt une exception, et son effort, important pour employer des langues historiques, fonctionne comme un gage d'authenticité, qui a pu être utilisé comme un argument promotionnel pour la série.
Les langues dans Viking, si elles sont importantes pour l'authenticité historique que la série a voulu se donner, ne servent pas qu'à cela. Elles ne sont jamais convoquées au hasard et interviennent toujours à des moments bien précis. Nous vous proposons à présent de voir dans quelle mesure ces langues servent différents moments clés de la narration et en quoi elles peuvent avoir du sens en ce qui concerne l'intrigue. Commençons par rappeler le principe de base de la série. Les langues historiques sont utilisées par les actrices et les acteurs dès que les personnages ne peuvent plus se comprendre entre eux. Mais quand tout le monde est censé comprendre la langue utilisée au moment où quelqu'un parle, c'est alors l'anglais contemporain qui est employé. Un viking parlera à un autre viking en anglais, puisque les deux personnages sont censés parler la même langue, et un saxon, de même, parlera anglais avec un autre saxon. Un franc parlera lui aussi en anglais à un autre franc. Mais si un viking doit parler à un franc ou à un saxon, bref, à un personnage qui ne comprend pas sa langue, alors le schéma retenu par les créateurs de la série est d'utiliser à la fois l'anglais et une langue historique en parallèle. Pour vous donner un exemple, dans l'épisode 9 de la saison 3, Ragnar parlemente avec des Francs qui ne parlent pas la langue des Vikings, alors que Ragnar, lui, ne comprend pas la langue des Francs. Les personnages ont alors recours à un interprète, et l'acteur de Ragnar, Travis Fimmel, utilise l'anglais.
And the offer is not enough. There is something I also seek that has no tangible worth.
Les acteurs qui jouent des personnages francs, eux, parlent l'ancien français pour montrer précisément qu'ils ne comprennent pas ce que Ragnar leur dit. Quant à l'interprète, il utilise successivement l'anglais et l'ancien français.
Ragnarais. Quel est le prendre de l'aide pour que Paris soit assassiné?
How much treasure do you want to lift the siege and go away?
Dans cette configuration un peu complexe, on peut observer que l'anglais contemporain a pris la place du vieux norrois. Dans la scène que nous venons de décrire, tous les personnages qui sont censés s'exprimer en vieux norrois sont joués par des acteurs qui parlent anglais, tandis que les personnages censés s'exprimer en ancien français sont joués par des acteurs qui s'expriment bien en ancien français à l'écran. On peut donc en tirer une conclusion provisoire. Ce qui importe quand on utilise les langues historiques, ce n'est pas que les bonnes langues soient utilisées au bon moment, c'est plutôt qu'on saisisse bien que les personnages ne se comprennent pas entre eux.
La première utilisation des langues historiques dans la série, c'est donc celle-ci, modéliser l'incompréhension. Et cette incompréhension sert à mettre en avant les très nombreuses tensions qui se laissent aisément deviner lorsque des vikings doivent parlementer avec leur ennemi. C'est notamment le cas, toujours dans cette scène de l'épisode 9 de la saison 3, lorsque Ragnar doit parlementer avec des francs qu'il est venu attaquer. L'usage des langues historiques intervient à ce moment précis pour mettre en avant la confrontation entre francs et vikings au moment du siège de Paris par ces derniers. Comme les langues historiques sont souvent utilisées dans ces contextes à très forte tension, on peut dire que les langues servent avant tout comme lieu de manifestation des affrontements entre personnages qui nourrissent le développement de l'intrigue.
Mais ce n'est pas leur seule utilité, et un deuxième rôle des langues historiques est de montrer la singularité des vikings par rapport à leurs adversaires. Dans la plupart des péripéties, les vikings, menés par Ragnar et par ses fils, sont de nouveau venus dans des contrées éloignées, comme les royaumes saxons, la Francie occidentale ou encore les ports de la Méditerranée. Dans ces contextes bien particuliers, l'emploi du vieux norrois sert souvent à montrer l'étrangeté des vikings au sein de ces mondes. Il s'agit de montrer en quoi le vieux norrois est une langue à part, parlée par des personnages à part. Pour prendre un exemple révélateur, on peut se reporter à l'épisode 7 de la saison 1, durant lequel Ragnar et ses hommes négocient avec le roi Eyleu de Northumbrie. Ce dernier, ainsi que tous les hommes de sa cour et de son armée, parlent en anglais contemporain, tandis que les hommes de Ragnar parlent norrois entre eux. Cette fois-ci, le vieux norrois n'est pas utilisé par les vikings au moment de parler avec les saxons, ce qui aurait été l'occasion de prolonger l'affrontement entre guerriers par un affrontement entre les langues. Non, Ragnar est le seul à s'adresser au roi Eyleu, et pour ce faire, l'acteur, Travis Fimmel, parle lui aussi en anglais contemporain.
2000 pounds, gold and silver.
La justification donnée est que le personnage de Ragnar aurait au préalable appris la langue des saxons auprès d'un captif, un moine nommé Æthelstan, qu'il aurait gardé comme esclave. L'usage du vieux norrois sert ici à créer une différence perceptible à l'oral entre les vikings et les saxons, pour souligner le fait que leur présence en Northumbrie et à la cour du roi Eyleu est vécue comme une invasion par ce dernier. La langue des vikings est ici le vecteur qui symbolise, du point de vue des personnages saxons qui entendent parler le vieux norrois sans pouvoir le comprendre, l'étrangeté de ces visiteurs vikings venus piller leurs terres.
A l'inverse, quand les personnages ne sont pas dans l'affrontement, ils parlent souvent tous la même langue, même s'ils viennent de pays différents. Un échange particulièrement intéressant a ainsi lieu entre un viking et le prince des Rousses, Oleg, à l'épisode 1 de la saison 6. Oleg commence à s'adresser à son interlocuteur viking en vieux norrois, langue dont il affirme qu'elle était parlée par ses ancêtres. Les deux personnages se comprennent donc très rapidement, et il est frappant de constater que le dialogue ne se poursuit pas en vieux norrois. Puisqu'il y a intercompréhension, les deux personnages se parlent en anglais.
Totala.
Dans ce cas précis, l'anglais est venu remplacer la langue historique, et ce remplacement sert justement à montrer que les deux personnages n'ont aucune difficulté à se parler et que dialoguer n'est pas un problème pour eux.
Nous vous proposons maintenant, pour alimenter encore cette typologie de la fonction des langues historiques dans la narration, de faire un petit pas de côté et de voir ce qui se passe dans la série Vikings Valhalla. Ce spin-off, créé par Jeb Stuart et diffusé depuis 2022, reprend comme cadre le même monde que celui qu'ont façonné Ragnar et ses fils, mais une centaine d'années plus tard. Des nouveaux personnages et des nouveaux enjeux donc, et on peut se demander si les langues historiques sont également présentes. Alors à première vue, non. Elles ne sont que très rarement employées, beaucoup moins souvent que dans la série Viking. Mais il existe tout de même des passages où les créateurs de la série ont fait eux aussi le choix de les utiliser. Le plus intéressant pour nous est un moment de l'épisode 5 de la saison 1. Dans cet épisode, Freydis, une personnage très importante, se rend dans le sanctuaire païen d'Uppsala et entre dans la demeure où se trouvent les statues des dieux nordiques. Au moment de s'adresser à eux, c'est le vieux norrois que l'actrice, Frida Gustafsson, utilise. La rareté de l'emploi du vieux norrois dans la série attire notre attention sur la signification de la scène qui est en train de se produire. Freydis est un personnage dont la piété à l'égard des dieux nordiques est sans cesse mise en avant pour créer un contraste avec l'expansion du christianisme en Scandinavie qui est une des dimensions centrales de l'intrigue de la série. aller à Uppsala et prier les dieux dans leur sanctuaire le plus sacré est donc un moment exceptionnel pour Freydis, et c'est une des raisons que l'on peut avancer pour l'utilisation de la langue norroise. L'association entre vieux norrois et paganisme sert ainsi ici à insister sur l'intensité dramatique du moment que Freydis est en train de vivre. C'est donc une autre fonction que les langues historiques peuvent jouer pour la narration. Et c'est là-dessus que je vous propose de clore notre petite analyse.
C'était notre émission sur les langues historiques de la série Viking, réalisée en partenariat avec le CFJ dans le cadre de la Semaine de l'Histoire de l'ENS. Merci à vous de nous avoir suivis dans notre périple linguistique. Nous espérons que vous avez apprécié ces voyages dans les mers nordiques à la recherche de la langue des Vikings, voyages qui vous ont été proposés par
Garance,
Jules
et Maxime.
Nous remercions nos invités, Benoît Grévin, François Aimion et Martin Bostel, ainsi que le CFJ, et plus particulièrement Maëlys Sour pour l'écriture et le montage, et Théo Vacarès pour l'enregistrement. Enfin, nous remercions Zoé Lemaire pour la création du visuel, et Ben pour son soutien.